Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir et merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour une nouvelle édition de Version originale. Mettre en lumière le sens et la portée d'une année dans l'histoire, c'est ce que nous proposent les presses universitaires de France dans la collection Une année dans l'histoire. L'année dont il sera question dans notre émission, c'est l'année 1619. 1619 aux États-Unis. 1619, l'autre naissance des États-Unis. C'est le titre du livre de Virginie Adan, publié aux presses universitaires de France. En août 1619, donc, deux navires corsaires vendent des captives africains et africaines sur les rives de la toute nouvelle colonie anglaise de Virginie, en Amérique du Nord. Ce fait, bien que brièvement mentionné dans la correspondance de certains administrateurs, sera très vite oublié. En 2019, donc 4 siècles plus tard, cet événement est réhabilité et commémoré aux États-Unis. Commémoré comme récit africain-américain des origines. 157 ans avant l'indépendance et surtout un an avant l'arrivée des pèlerins du Mayflower en 1620. Bonsoir Virginie Adan.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. On va juste pousser le micro pour que vous puissiez vous voir.
Ah oui, c'est vrai. Voilà.
Vous êtes donc docteur en histoire de l'EHESS et maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes. Nantes qui fut, dans le passé, l'un des grands ports français de l'esclavage.
Oui, premier port d'esclaves du Royaume de France.
C'est ça. L'objet de votre livre est le projet 1619. Qui voit le jour en 2019 aux États-Unis. Donc le 14 août 2019, est publié dans le New York Times Magazine un numéro spécial qui a pour titre 1619 Project. L'ambition exprimée par le projet 1619 est donc d'examiner ce que l'esclavage a légué à l'Amérique. Le projet 1619 vise donc à réhabiliter et mettre en valeur l'histoire de l'arrivée des premiers esclaves africains et africaines en Amérique du Nord. Donc, Virginie Adan, vous allez nous dire sur quoi porte le véritable enjeu de ce projet. Alors, je reprécise dans les faits que deux navires corsaires, donc le White Lion et le Treasurer, arrivent donc à Point Comfort, dans la toute récente Virginie, la colonie de Virginie, et font donc débarquer 32 esclaves, hommes et femmes. Dans votre livre, donc, vous développez de façon exhaustive dans quel contexte, dans quelle situation mondiale ce fait se déroule. Pour nos auditeurs, rappelez-nous dans quel moment nous sommes. Parlez-nous justement de la rivalité entre les nations impérialistes européennes.
Oui, alors merci pour cette question de contextualisation qui est quand même fondamentale, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir 1619 comme une date très états-unienne avant la naissance des États-Unis d'une certaine manière, mais il faut la restituer dans ce qu'on va qualifier d'une première mondialisation, c'est-à-dire une première mise en connexion des différentes parties du monde pilotée par les puissances européennes. Et pilotée par les puissances européennes qui sont, dans un premier temps, à partir de la fin du XVe siècle, les puissances ibériques principalement, hein, l'Espagne, le Portugal, qui vraiment s'ouvrent au monde à ce moment-là, d'abord par des voyages d'exploration, mais aussi des voyages de conquête coloniale véritablement, et par d'exploitation en fait, des ressources qui sont à l'extérieur de l'Europe. Mais à partir du début du XVIIe siècle, ce que l'on voit, puis même dès le XVIe siècle, on voit une concurrence d'autres puissances européennes qui essayent en fait de s'implanter dans ce concert des nations européennes qui sont outre-Atlantique et qui essayent de prendre un petit peu leur part du gâteau. Ces puissances incluent évidemment le Royaume d'Angleterre, au Royaume d'Angleterre, qui est rival de l'Espagne à bien des égards, et qui entreprend d'essayer de s'implanter dans ce monde atlantique. Alors le cœur de ce monde atlantique, fondamentalement, c'est autour de la Caraïbe, en fait. C'est en direction du Mexique, en direction aussi des possessions espagnoles, donc de la Nouvelle-Espagne, mais aussi de la Caraïbe, où il y a des richesses à exploiter, et où les bateaux espagnols repartent chargés de richesses vers le continent européen, chargés de richesses, de métaux précieux, mais aussi de marchandises. Donc il y a la volonté de la part notamment de l'Angleterre, d'essayer d'intercepter certaines de ces richesses, ou alors aussi d'avoir ses propres implantations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième autre grande puissance qui intervient là-dedans, alors il y a le Royaume de France, mais le Royaume de France, il est un petit peu marginal dans mon histoire, donc je n'en parle pas trop. L'autre puissance qui est importante, c'est la République des Provinces-Unies. La République des Provinces-Unies, c'est aujourd'hui devenu les Pays-Bas. La République des Provinces-Unies, c'était des provinces qui étaient sous domination espagnole jusqu'à la fin du XVIe siècle et qui ont fait sécession par rapport à la monarchie espagnole, qui ont pris leur indépendance pour des motifs à la fois religieux et politique, et qui se sont déclarés République des Provinces-Unies, et dont un des terrains d'action principaux, l'Espagne ne leur reconnaît pas leur indépendance à cette date-là, et l'un de leurs terrains d'affrontement principaux, c'est sur les mers, et notamment pour ce qui est du commerce. Et donc, ces puissances-là essayent d'entraver la puissance espagnole d'une manière ou d'une autre, et d'intercepter ces richesses. Alors, les richesses qui viennent de l'Empire espagnol, il est difficile de les intercepter parce qu'elles sont vraiment très protégées par ce qu'on appelle la flotte des Indes. Mais par contre, il y a des bateaux qui naviguent plus isolément. Parmi ces bateaux qui naviguent plus isolément, il y a ceux qui transportent une autre marchandise, une marchandise humaine à vrai dire, à savoir les captifs et les captives venus d'Afrique qui sont transportés donc du continent africain, où les Espagnols ont un contrat aussi avec le Portugal, du continent africain vers les colonies espagnoles. Et c'est en chemin, sur ce chemin-là, qu'un bateau qui s'appelle le Saint-Jean-Baptiste est intercepté par deux navires corsaires, donc le White Lion et le Treasurer, qui entreprennent d'en saisir une partie du chargement. Cette partie de chargement, c'est 60 captives et captifs qu'ils prennent dans l'espoir de le revendre à leur propre compte. Et en fait, ce sont des corsaires, ça veut dire qu'ils naviguent sous une bannière, sous la bannière avec des lettres de marque qui ont été données par un puissant européen, qui leur autorise en fait à attaquer un navire espagnol.
C'est un peu des mercenaires.
Voilà, c'est des pirates qui ont été autorisés par une puissance européenne. En gros, c'est ça. Et donc, ils transportent ces captives et ces captifs. Et c'est par des hasards de fortune en fait qu'ils cherchent un point de chute. Le premier point de chute qui est envisagé, c'est les Bermudes, et qui est une colonie aussi anglaise. Et finalement, en fait, ils vont jusque sur le continent nord-américain, où les Anglais se sont implantés depuis 1607. Et il y a un premier bateau qui arrive et qui vend une partie de sa cargaison, donc ses captives et ses captifs, et contre des vivres, en fait, parce que c'est vraiment un truc de fortune, quelque part. C'est vraiment une expédition de fortune. Et l'autre bateau, quand il arrive, ne peut pas vendre ses captives et ses captifs parce qu'entre-temps, la puissance qui lui a octroyé les lettres de marque a fait la paix avec l'Espagne, donc il ne peut pas les vendre, donc il fait demi-tour. Mais donc voilà, on voit ce côté très bricolé d'une certaine manière, mais qui vient dire en fait la complexité des relations internationales et leur effet dans le monde atlantique à cette époque-là.
Donc effectivement, dans votre livre Virginie Adane, vous consacrez plusieurs pages très fouillées qui montrent l'ampleur, la dimension de ce commerce mondial, incluant bien sûr les esclaves. Et on comprend que plusieurs siècles après, il reste encore des survivances et des rémanences.
Bien sûr.
Alors, donc c'est ce navire qui va arriver donc dans la toute nouvelle colonie de Virginie en Amérique du Nord. Et donc qui va donc décharger, desquels vont débarquer donc 32 personnes, femmes et hommes esclaves africains. Pour quelle raison ce fait en 1619 n'avait pas retenu l'attention, notamment dans les années 1970 à 2000?
Alors, pourquoi il n'a pas retenu l'attention? Déjà parce qu'en 1619, il n'a pas particulièrement retenu l'attention. Il y a, vous l'avez dit, une ligne dans la correspondance administrative. Donc, c'est un des administrateurs, un des propriétaires terriens de la colonie qui s'appelle John Rolfe, qui se trouve être par ailleurs le mari de Pocahontas, qui écrit à l'administrateur, au trésorier de la compagnie de Virginie, pour dire, au fait, on a acheté 20 et quelques. 20 et quelques personnes. Enfin voilà. Donc il n'en dit pas plus parce que c'est pas particulièrement remarquable. Pourquoi est-ce que c'est pas remarquable ? Parce que ça fait déjà plus d'un siècle qu'en fait il y a du transport de personnes mises en esclavage entre l'Afrique et le continent américain. Alors pas forcément l'Amérique du Nord, plutôt la Mésoamérique, les colonies espagnoles. Mais ça fait plus d'un siècle en fait qu'il y a ce commerce qui existe déjà et il dure jusqu'à bien plus tard dans le 19e siècle. Donc en fait c'est une date qui est noyée dans un commerce qui a duré pendant des siècles. C'est pour ça qu'il ne fait pas date. À cette époque-là. Bon, à cette époque-là, on ne sait pas que ça va durer jusque très tard dans le 19e siècle, mais on sait déjà que ça fait plus d'un siècle que ça existe. Et par la suite, dans les années 1970, on ne s'y intéresse pas trop à cette date parce que dans les années 1970, quand on veut faire de l'histoire de l'Amérique coloniale, même aux États-Unis, on commence un petit peu dans les années 1970 à se dire cette histoire-là ne doit pas être resserrée que sur les États-Unis. Si on veut faire de l'histoire de l'Amérique coloniale, on doit comprendre les Amériques. Et si on veut comprendre les Amériques, et si on veut comprendre le monde atlantique dans sa globalité, vraiment 1619, c'est la date de rien. Ce commerce, il a commencé il y a plus d'un siècle. Et donc, en fait, cette date, elle est connue, mais pas particulièrement remarquable pour les historiennes et les historiens qui essayent d'avoir des concepts analytiques forts, comme voilà, la traite atlantique, comme le désenclavement du monde ou des choses comme ça. Ces concepts analytiques forts ne tiennent pas trop à l'épreuve... Enfin, 1619 ne tient pas trop à l'épreuve de ces concepts-là. Ça ne tient que si on veut faire une histoire qui est étriquée sur les États-Unis. Voilà. C'est tout simplement ça. Dans les cours d'histoire, dans les petites écoles africaines-américaines, on va parler de 1619 parce que c'est un point de départ. Mais sinon, c'est pas une date autrement que par les États-Unis.
Là, on arrive donc au cœur du projet 1619. Donc, les origines, donc vous en parlez en page 84 de votre livre, Virginie Adan. Donc, Calvin Pearson, donc un activiste, fonde en 2005 le projet 1619. C'est une association à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir la mémoire des Africaines et Africains arrivés donc en Virginie sur les deux navires donc, que vous avez cités. Et donc, le 14 août 2019, est publié donc dans le New York Times Magazine un numéro spécial qui a pour titre 1619 Project. Donc, c'est l'ambition de ce projet, donc 1619. C'est donc d'étudier ce que l'esclavage a légué à l'Amérique. Alors, en substance, qu'est-ce qu'il y a véritablement dans ce projet ? Qu'est-ce qu'il dit, ce projet ?
Alors, en fait, il y a deux projets dans ce que vous venez de décrire. Effectivement, il y a celui de Calvin Pearson, qui est un activiste local de Hampton, la ville de Hampton, en Virginie, qui correspond à l'endroit où ont débarqué ces bateaux, en fait, qui, lui, est un membre de la société civile et qui se dit, il y a quand même ce moment qui s'est produit il y a 400 ans sur nos terres. C'est dommage qu'on n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui a façonné ces lieux-là. Donc lui, il veut faire de la commémoration véritablement. Et par commémoration, il n'entend pas célébrer l'arrivée d'esclaves. On ne célèbre pas l'esclavage, mais il entend commémorer une présence. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Donc en fait, il veut mettre en place un dispositif mémoriel à Hampton en Virginie, donc qui passe par des panneaux commémoratifs, qui passe peut-être par un moment de célébration, une fête ou pas une fête, mais peut-être une cérémonie ou des choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'il imagine les choses et c'est ce qui prend petit à petit forme. D'abord, il y a un premier panneau commémoratif qui est installé. Ensuite, il y a l'organisation d'une commémoration locale. Puis finalement, par du lobbying, il y a une volonté de faire une commémoration de plus grande ampleur et en fait, petit à petit, de proche en proche, est décidé à partir de 2017 une commémoration fédérale de 1619 en 2019. On dit, à l'échelle fédérale, on commémorera l'arrivée de ceux qu'on appelle les First Africans. Donc ça, c'est vraiment le temps commémoratif et ça, c'est le Project 1619. Et l'autre truc, c'est ce qu'a fait le New York Times Magazine, c'est le 1619 Project. Donc les termes sont inversés, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le 1619 Project, là, c'est un projet éditorial qui est porté par le New York Times et qui est porté par un numéro spécial du New York Times Magazine et porté par une éditorialiste du New York Times qui s'appelle Nicole Hannah-Jones, qui est une journaliste qui a été primée par le prix Pulitzer et qui est spécialisée dans les droits civiques. Donc, dans les questions d'inégalité raciale, et en fait, elle s'intéresse beaucoup à cela. Et en fait, elle veut porter cette commémoration et elle veut lui donner un sens vraiment politique. Elle veut dire, c'est commémorer ce moment-là, c'est rappeler à la fois le rôle qu'a joué l'esclavage dans la construction de ce pays, et s'est rappelé les contributions des Noirs américains dans la construction de ce pays. Et en fait, c'est une double chose. C'est rappeler le rôle qu'a joué l'esclavage dans les inégalités qui sont encore persistantes aujourd'hui. Et rappeler que les gens qui peuvent se revendiquer de la construction de ce que sont les États-Unis, c'est pas que des Blancs. En gros, c'est un petit peu ça l'idée qu'elle essaye de mettre en avant avec ce numéro-là. Donc finalement, le numéro spécial du New York Times Magazine, ça va être un numéro à plusieurs voix, qui va assez peu parler de ce qui se passe en 1619, mais qui va beaucoup parler de l'état des États-Unis à date de 2019, en disant « c'est le produit de 400 ans d'histoire, de discrimination et d'inégalité ».
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
En compagnie de Virginie Adan, qui publie L'autre naissance des États-Unis aux presses universitaires de France. Alors, quelle nécessité y aurait-il donc à faire de 1619 une date charnière? Vous y répondez, Virginie Adan. Alors, bien sûr, face à ce projet, il y aura des oppositions, j'imagine, effectivement. Quelles sont les forces d'opposition, justement? Qu'est-ce qui va se passer? D'où vont venir les réactions contre ce projet?
Alors, en fait, les forces d'opposition, elles sont très progressives et ça se joue en plusieurs temps. Si on veut vraiment remonter, la première force d'opposition à la commémoration de 1619, on peut la trouver en 1969 et elle vient de responsables africains-américains eux-mêmes, parce que la première fois qu'on dit on pourrait commémorer 1619, certains responsables politiques africains-américains disent « vous voulez commémorer quoi? Vous voulez célébrer l'esclavage? Pourquoi on ferait ça ?» Donc ça, c'est un premier temps. Puis finalement, on change le sens de ce qu'on veut dire par commémoration. C'est une commémoration qui est dans un premier temps très confidentielle. Et en 2017, quand le Congrès des États-Unis décide une commémoration fédérale, au passage, cette décision, elle est ratifiée par la présidence des États-Unis. En 2017, en février 2017, c'est Donald Trump, qui est président des États-Unis, qui signe sans mal le projet de loi sur ça. Il n'a aucun problème avec ça. Parce qu'il ne voit pas particulièrement de... C'est pas vu comme quelque chose de particulièrement problématique dans un premier temps. Ce qui va changer les choses, c'est l'articulation entre la commémoration et le temps social qu'on vit à ce moment-là. Déjà, commémorer 1619 en Virginie, c'est commémorer la présence d'Africains mis en esclavage, essayer de leur rendre justice dans un espace public qui est... très hostile à la présence africaine-américaine, puisque la Virginie est un état du sud des États-Unis qui est encore constellé de monuments confédérés, de monuments qui célèbrent le sud esclavagiste. Et donc ça, c'est une première chose. Donc dans un premier temps, ces personnes qui veulent commémorer 1619 disent « avant de pouvoir le commémorer, il faut peut-être décommémorer les restants de la glorification de l'esclavagisme ». C'est ce qu'on a vu à l'été 2017, hein, quand on a dit « il faudrait peut-être enlever les statues de généraux confédérés, notamment à Charlottesville ». Ça a donné une émeute de l'extrême droite qui a fait des morts. Et ça, c'est un point de départ qui commence un petit peu à crisper les milieux très conservateurs et l'extrême droite états-unienne, puisque c'est le moment où notamment Donald Trump dit il y a des gens bien des deux côtés, y compris des côtés de milieux quand même franchement néo-nazis. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, les choses s'emballent quand... alors, le numéro du New York Times Magazine paraît à l'été 2019. Il a énormément de succès aux États-Unis. Il est sold out, il est réédité. Tout le monde le vit comme un électrochoc aux États-Unis. Vraiment, je n'avais pas conscience de cette importance de l'histoire de l'esclavage dans l'histoire de mon pays, etc., etc. Et donc, il fait grand bruit. Il est discuté par les historiens qui y voient des défauts, mais il fait quand même grand bruit. Quelques mois plus tard, on est en mai 2020, George Floyd est tué par la police. Et ça réactive ce mouvement Black Lives Matter, qui conduit à des manifestations, et on voit apparaître dans les manifestations, alors de manière marginale, mais des panneaux qui viennent dire « de 1619 à 2020, rien n'a changé », ou des choses de ce style. Et là, on commence à avoir un emballement contre 1619 et contre le 1619 Project de Nicole Hannah-Jones et du New York Times Magazine, consiste à dire « mettre en avant 1619, c'est nous apprendre à détester le pays, c'est un concept qui divise ». Et là, on a une polarisation véritablement contre ce discours-là et on a une réactivation de ce qu'on appelle les guerres culturelles.
Est-ce que donc, ces réactions, elles sont venues des législatures d'État, du Congrès, de la Maison-Blanche et,
Alors, un petit peu tout ça à la fois, d'une certaine manière, et
parce
en plusieurs
encore
temps.
Encore une fois, on est sous Trump, quand même.
Exactement. On est en 2020, on est encore au printemps 2020, à l'été 2020, on est sous Trump. Alors, Trump commence à avoir des discours qui sont relativement accablants contre le 1619 Project, qui sont quand même souvent, très réducteurs. Et il y a une tentative de la part de la Chambre des représentants d'essayer de faire passer un projet de loi enlever les financements fédéraux au 1619 Project, parce que en fait, le 1619 Project, c'est un numéro spécial du New York Times Magazine, et ensuite le Pulitzer Center a annoncé qu'il allait financer des outils pédagogiques à transmettre dans les écoles, dans le système scolaire états-unien dérivé du 1619 Project. Donc, tentative de faire un projet de loi pour empêcher un financement fédéral de cela. Le Pulitzer Center est une institution privée, donc ça n'aurait eu aucun impact en réalité. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la rhétorique immobilisée par le sénateur. En fait, c'est le Sénat qui essaie de passer ça. Par le sénateur qui propose cela, qui dit c'est un « divisive concept », donc un concept qui divise, un concept qui sème la discorde. Et donc, il met cela en avant, le projet de loi est tenté, il ne passe pas. Voilà. Le Congrès ne valide pas le projet de loi, donc il n'a pas lieu. Quelques mois plus tard, Trump n'est pas réélu, malgré ce qu'il en dit. Et finalement, ces tentatives de législation fédérale ou présidentielle sur ça sont complètement oubliées. Par contre, au niveau des États, qui sont restés républicains et qui sont très conservateurs, qui sont proches des idées de Trump, mais qui sont d'une manière générale très conservateurs, on tente de censurer les contenus d'enseignement dans les écoles primaires, dans l'enseignement secondaire d'une manière générale. Et on voit ça notamment au Texas ou en Floride, typiquement, où on tente de censurer donc, certains ouvrages dans les bibliothèques scolaires. On l'a vu avec To Kill a Mockingbird, par exemple, ou des choses comme ça. Mais le 1619 Project, qui a été édité en livre, fait partie des livres censurés. Et surtout, on essaye de censurer les contenus d'enseignement qui parleraient de ce que, à partir de ce moment-là, l'extrême droite américaine a appelé la « critical race theory ». La « critical race theory », la théorie critique de la race. En fait, au départ, c'est un concept qui vient des études de droit. Mais en fait, l'extrême droite récupère cette expression-là pour juste dire tout ce qui va parler du racisme, on veut pas le voir dans les écoles, en fait. Et donc, mettre le terme « critical race theory », c'est créer une espèce d'épouvantail qui inclut pleinement, et le cœur de la « critical race theory » à cette date-là, c'est considéré être le 1619 Project, et c'est l'objet des tentatives de censure au niveau des États répétées.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des critiques venant de la part d'historiens reprochant, par exemple, l'aspect émotionnel beaucoup trop fort par rapport à l'aspect scientifique de ce projet?
Alors absolument, il y a eu des critiques immédiatement. Il y a eu des critiques immédiatement parce que c'est le 1619 Project du New York Times Magazine, encore une fois, c'est un projet éditorial qui émane d'une journaliste qui est spécialisée dans les questions liées aux discriminations, mais qui elle-même n'est pas historienne. Mmh. Alors, qui fait appel à des historiens. Il y a des historiens qui contribuent au numéro, qui contribuent à d'autres productions qu'elle fait par la suite, parce que, outre ce numéro spécial, donc comme je l'ai dit, ça a été édité en livre, elle en a fait un podcast, elle en a fait une série documentaire télévisée sur Hulu. Et il y a des historiens qui y contribuent, hein, en fait. Elle en fait venir et elle en consulte. Mais elle n'écoute pas toujours ce qu'ils lui disent. Des fois, il y a des historiens qui ont essayé de relire ses articles, qui ont dit « là, t'as dit une erreur », elle choisit de ne pas les écouter. Ah. Donc ça, ils l'ont pas très bien pris, globalement. Et surtout, en fait, son objectif est aussi d'essayer de faire exister quelque chose dans l'espace public, et ça passe par la polémique, et elle a des formulations qui peuvent être très polémiques. Parmi ces formulations très polémiques, Nicole Hannah-Jones va mettre en avant effectivement que 1619 est la vraie naissance des États-Unis contre 1776. Or, la plupart des historiennes et des historiens vont plutôt dire on peut mettre les deux dates ensemble, et c'est une naissance plurielle des États-Unis plutôt que les confronter. L'autre chose, c'est qu'elle va expliquer que 1776 ne peut pas être compris sans 1619, parce que son argument, elle reprend un courant historiographique qui consiste à dire que un certain nombre de représentants des colonies du Sud ont fait le choix de l'indépendance parce qu'ils craignaient que la monarchie britannique n'abolisse l'esclavage. Et donc, pour protéger l'institution esclavagiste, ils ont choisi de prendre leur indépendance. C'est un argument qui est très débattu par les historiennes et les historiens qui disent que c'est très discutable en réalité. Il y en a certains qui avaient peut-être ça en tête, mais ça ne peut pas être le seul facteur explicatif. Donc c'est vu comme quelque chose d'un petit peu d'assez brutal en fait. Et bon, elle a d'autres formulations de ce type. Mais donc ça, c'est critiqué et certains historiens vont essayer de faire des droits de réponse, lui demander de corriger ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'accepte pas toujours de faire. Donc voilà, il y a des critiques historiennes qui sont évidemment formulé, oui.
Notamment en 2023, 19 historiens et historiennes proposent une recension critique dans les pages donc, de l'American Historical Review. Oui. C'est une analyse critique. Qu'est-ce qu'ils disent justement ces historiens-là, 4 ans plus tard ?
Alors ce qui est très intéressant, c'est justement, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire que en 2020, des historiens font cette critique contre Nicole Hannah-Jones, ils disent « il y a des bêtises dans ce que tu as dit ». Tu ne peux pas formuler les choses de cette manière-là, etc., etc. Font un droit de réponse, ils sont déboutés par le New York Times et en fait une partie de la communauté historienne leur dit vous avez peut-être pas tort sur le factuel, par contre dans l'intention vous avez peut-être donné des arguments à des gens à qui vous ne vouliez pas donner d'arguments. Et en fait, ce qu'on voit en 2023 dans ce numéro spécial de l'American Historical Review, qui est la revue la plus prestigieuse, qui est portée par l'Organization of American Historians, c'est des historiens qui travaillent sur différents champs, qui s'emparent du 1619 Project et qui, globalement, tous vont dire il y a des défauts, il y a des choses qui sont impropres, mais c'est ce qu'on appelle de l'histoire publique. C'est-à-dire que des fois, il faut accepter, quand on est un historien scientifique, académique, qu'il y ait des tentatives de simplifier notre propos, de simplifier certaines analyses pour les rendre plus accessibles à un plus grand public et pour leur donner un sens que nous ne prendrons pas parce qu'on est là pour produire du savoir et non pas pour s'engager dans la vie de la cité. Et ce 1619 Project, à sa manière, il permet d'ouvrir sur un débat. Il permet de discuter de la place de l'esclavage dans la formation des États-Unis. Peut-être en disant des erreurs, mais en tout cas, on en discute. Et avant, on n'en discutait pas. Et donc, même si le projet a ses défauts, il ouvre sur le débat. Et le débat est important, il est salutaire, il est nécessaire. Et donc, en gros, ce qu'on retient finalement de ce numéro spécial, c'est plutôt une tentative de défendre le projet contre des tentatives... C'est une réaction aux tentatives de censure dans les États du Sud, notamment. Et de dire, on a besoin de débat, on a besoin de débat public. Des fois, il faut accepter, quand on est historien, que le débat public ne soit pas porté que par nous, mais que le passé soit pris en charge par des associations citoyennes, par des activistes, et que nous, notre place d'historien ou d'historienne, c'est de discuter, d'ouvrir sur le débat, plus que de refuser et de vouloir juste donner des bons et des mauvais points, quoi.
On continue à parler de votre livre, Virginia Dan, L'autre naissance des États-Unis, publié aux presses universitaires de France. Donc on écoute un peu de musique et on revient à ce livre, Virginia Dan. We got to be. What if God was a her? Would I treat her the same? Would I still be running game on her? In what type of ways would I want her? Would I want her for a mind or a heavenly body? Could be out here bogus with someone so godly. If I was with her, would I still be wanting my ex? The lies, the greed, the sex. Wouldn't be ashamed to give a part of my check. Wearing a cross, I mean the heart on my neck. Her, I would reflect on the streets of the side. Ride with her, cause I know for me she'd die through. Good and bad, call on her like I'm chirping her. Couldn't be jealous cause other brothers worship her. Walk this earth for her. Glory, I'm grateful to be in her presence. I try to stay faithful. She was
friend, even if they don't try. Some ladies test men, and this was a test that was bigger than him. Some believe it's the nature that is given to men. He had a good gig, a wife, a kid, a decent home. One reason or another couldn't find peace at home. She asked, why do men always have to stray? He said, I'm bad, not as bad as Eric Benet. I used to take them out to eat, but they wasn't really eating. Might have got a little, but I wasn't really cheating. It's hard when your lady don't believe what you say and what you did in the past. You gotta live with today. She asked if they could spend a night together. He thought and said, I'm trying to get my life together. Went home to his lady. These were his confessions. Baby, you a blessing and my best friend.
Faithful, le morceau signé Common, dans version originale sur Aligre FM 93.1. Je reçois Virginie Adan qui publie aux Presses universitaires de France L'autre naissance des États-Unis. Alors, quelles sont les retombées, les conséquences, j'ai envie de dire, favorables de la publication de ce projet? Est-ce que ça, la controverse qui s'en est suivie, la publication, ont-ils contribué à apaiser un peu le rapport des États-Unis avec leur passé?
Alors, je ne dirais pas que ça a apaisé le débat, je pense que ça l'a généré. En tout cas, beaucoup d'historiennes et d'historiens, encore une fois, ont des critiques contre les propos qui sont tenus dans le 1619 Project, des erreurs factuelles ou le fait de mettre en avant peut-être un certain type de récit historique au détriment d'autres, hein, parce que même si c'est un récit africain-américain des origines, mais quid des autres catégories minorisées, hein, dans l'histoire des États-Unis. Donc, mine de rien, il y a des critiques réelles de la part des historiennes et des historiens, mais ce qui est vu comme une retombée positive, c'est que ça génère du débat. Et c'est que ça fait parler, et c'est que ça fait exister le fait que l'histoire des États-Unis est effectivement consubstantielle d'une histoire de l'esclavage et d'un esclavage racial, en fait. Et donc ça, fondamentalement, c'est quelque chose qui est important, parce que pendant longtemps, en fait, quand on regarde même les livres d'histoire d'antan, en fait, cette histoire de l'esclavage, elle est souvent mise en avant aux abords de la guerre de sécession, ou alors quand on veut parler du fait qu'il y avait effectivement de l'esclavage au moment de l'indépendance des États-Unis et que ça n'a pas été réglé, mais on n'en parle pas vraiment. Et maintenant, il y a une volonté de mettre en avant que si on doit parler de l'histoire des États-Unis, on ne peut pas parler d'une histoire qui ne soit que blanche. Et donc ça, fondamentalement, c'est une retombée qu'on peut considérer comme positive, parce que ça permet d'avoir des récits beaucoup plus pluriels, beaucoup plus nuancés, beaucoup plus complexes. Maintenant, ça n'a pas apaisé un débat public. Au contraire, ça a plutôt eu tendance à attiser ce qu'on a appelé des guerres culturelles, en fait, hein, parce que effectivement le 1619 Project paraît prendre le premier mandat Trump. Par la suite, Joe Biden est président des États-Unis, mais en réalité, beaucoup d'États sont restés proches des idées de Trump et attisent ces débats, essayent de censurer les contenus d'enseignement et prennent d'abord pour cible ces questions liées à l'histoire de l'esclavage. Et puis ensuite, lorsque Trump revient au pouvoir début 2025, parmi les premières décisions qu'il prend, c'est déjà des législations anti-diversité, équité, inclusion. Ça vise directement des effets liés à la volonté de questionner, en fait, questionner le racisme structurel dans les institutions états-uniennes. Donc finalement, en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt la réactivation de guerres culturelles plus qu'autre chose. C'est-à-dire, on a d'un côté un camp qui est très conservateur et qui refuse tout discours critique contre le passé des États-Unis, et de l'autre, un camp qui se veut plus qui se déclare plus progressiste et qui dit en fait on a besoin de faire exister les critiques pour créer une communauté plus soudée. Et ces deux camps s'annulent mutuellement en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est une réactivation de cette confrontation entre ces deux camps qui est extrêmement violente en fait.
Virginie Aden, votre livre met aussi en lumière de profondes questions historiographiques, notamment la façon dont histoire et mémoire s'interpénètrent, s'alimentent réciproquement. Déjà, bien sûr que c'est un vaste débat, la question de mémoire-histoire. De votre point de vue, quelle différence vous établissez entre les deux, d'un côté histoire et de l'autre mémoire ?
Alors, c'est effectivement difficile de répondre à cette question. C'est un continent en soi de répondre à cette question. Là, on parle plutôt de mémoire collective. Donc, en fait, quand on parle de mémoire collective, on va avoir associé cela parfois à un groupe, donc qui se définit suivant certains critères, et surtout un rapport peut-être plus sensible au passé. Enfin, vraiment, qui repose peut-être plus sur l'affect et sur la façon dont le passé va construire le sentiment d'appartenance ou le sentiment d'identité d'un groupe. Quand on parle de l'histoire en tant qu'universitaire, l'histoire, c'est une science qui est construite à partir du travail sur l'archive, de l'analyse de ces archives. Et ensuite, cette analyse des archives est soumise à une revue par les pairs hein, qui vont évaluer la pertinence de l'analyse ou sa non-pertinence. Donc, c'est deux procédés différents de prendre en charge le passé. Voilà. Deux procédés différents, mais qui peuvent se rencontrer par moment. Mais c'est pour ça que, typiquement, quand on parle de l'espace public, d'une statue qui est présente dans l'espace public, est-ce qu'on parle de l'histoire ou est-ce qu'on parle de la mémoire ? On peut parler de l'histoire si on parle du processus qui a conduit à l'édification de la statue ou d'une histoire de l'art de l'apparence de la statue. Mais si on déboulonne, par exemple, une statue du général Lee, on n'annule pas l'existence historique du général Lee, juste on annule peut-être le fait de le glorifier dans l'espace public. C'est pas tout à fait la même chose en fait. Donc c'est ça la différence qui peut être faite d'une certaine manière.
Mais vous distinguez donc l'histoire scientifique de l'histoire publique.
Oui, alors l'histoire publique c'est effectivement donc c'est un terme qui est de plus en plus présent maintenant dans les pratiques historiennes aussi. En fait, l'histoire publique, c'est aussi vieux que l'histoire, d'une certaine manière, mais on commence à objectiver l'existence d'une histoire publique vraiment depuis les années 1970. C'est de dire que, en fait, souvent, ce qu'on a reproché aux historiens qui travaillent sur leurs archives avec la revue par les pairs, c'est d'être un petit peu isolés dans leur tour d'ivoire très académique, où à chaque fois qu'on va leur dire quelque chose, ils vont répondre avec un ton un peu docte. C'est un peu plus compliqué que ça. Et partir dans des explications très longues, comme ce que je suis en train de faire probablement d'ailleurs. Et donc, l'idée de l'histoire publique, c'est rendre accessible la production des historiennes et des historiens pour le public, dans l'espace public, à destination du public, et des fois, la production d'un discours sur le passé par le public. En fait, c'est parler d'histoire publique, c'est parler du fait que le passé est une chose. L'histoire, c'est le discours que l'on construit sur le passé, et la construction de ce discours sur le passé n'est pas que le fait des historiens universitaires. Et donc parler d'histoire publique, c'est aussi accepter le fait qu'il y a différentes façons de prendre en charge le passé, et c'est de poser la question comment les historiens universitaires académiques s'insèrent dans ces débats-là, en fait.
Justement, cette question donc, de ce projet 1619 conduit à repenser le travail scientifique, la parole historienne. Comment établir la légitimité, la crédibilité des autres productions de discours ? Il y a effectivement l'histoire scientifique, avec la méthode, avec les recherches, mais aussi, il est quand on vous suit, il est aussi nécessaire d'avoir d'autres productions, d'autres producteurs de discours, d'autres productions de discours. Comment rendre ces autres productions légitimes alors qu'ils n'ont pas l'approche scientifique rigoureuse et méthodique ?
Alors, je pense que, et c'est ce qui ressort notamment du numéro spécial de l'American Historical Review, qui ont tous en fait ce retour-là, c'est de dire, en fait, elle a réussi là où nous n'arrivons pas. Nicole Hannah-Jones a réussi à faire aller vers l'espace public un discours que nous n'arrivions pas à faire entendre, c'est-à-dire l'importance de l'esclavage dans la construction des colonies d'Amérique, en fait, fondamentalement. Et, Et elle y arrive par la polémique. Le rôle de l'historien derrière, c'est peut-être d'essayer d'accompagner ce discours, d'essayer de le canaliser, d'essayer d'y apporter peut-être justement une expertise scientifique, mais aussi de ne pas discréditer toute parole qui n'est pas historienne, en fait. Et c'est toute la difficulté, parce que des fois, on va peut-être entendre des déclarations qui sont outrées, qui vont forcer un trait, qui vont le grossir ou quoi. Et c'est peut-être d'arriver à recontextualiser quelle est la fonction de chaque discours, en fait. Et la place de l'historien, elle est difficile pour l'instant à assigner. Fondamentalement, je pense que ce qu'on doit en retenir, c'est que ça ne doit pas être une place de surplomb. Ça ne va pas être une place de dénigrement d'un discours qui serait autre qu'académique. Mais pour autant, ne pas dévaluer l'importance de la parole académique qui repose sur de la production, sur du travail d'archives et sur de la mise en contexte, une mise en contexte nécessaire, en fait. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre, en fait, qui est difficile.
Mais aujourd'hui, plus que jamais, justement, avec cette espèce de notion de post-vérité qui a été inventée depuis quelque temps, avec cette confusion entre opinion et fait.
Exactement.
Parce que maintenant, il faut cette rigueur.
Et il faut cette rigueur, et il faut accepter que cette rigueur, elle puisse trouver un chemin dans l'espace public. Et donc c'est notamment ça, hein, c'est ce que fait beaucoup Nicole Hannah-Jones, c'est qu'en fait 1619 Project, c'est un numéro du New York Times Magazine qui a été disponible en ligne, qui a été décliné avec une newsletter pour les abonnés du New York Times, s'ils avaient envie d'écrire aussi à cette newsletter, qui a été décliné avec d'autres médias, qui a été décliné avec le fait que Nicole Hannah-Jones passait son temps à répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tout le monde pouvait quelque part intervenir dans ces débats-là. Et en fait, ça a montré aux historiennes et aux historiens qu'il y a une demande de clarification sur le passé qui vient du public, qui ne peut pas se limiter aux salles de classe, puisque c'est d'autres arènes de discussion sur le passé qui sortent des salles de classe, qui sortent des salles universitaires. Et ça incite, je pense, les historiennes et les historiens à se dire comment est-ce qu'on va investir ces arènes de discussion. Est-ce que c'est souhaitable? À titre personnel, je le pense. Et si oui, comment? Voilà. Et je pense que c'est ça que ça a permis d'ouvrir aussi comme vraie discussion.
Et ce qui s'est passé justement en 2019, ce projet 1619, a soulevé la question aussi de la liberté d'enseigner, le sens de l'enseignement de l'histoire. Alors, aux États-Unis, qui conduit la politique de l'enseignement de l'histoire ?
Alors, l'enseignement de l'histoire aux États-Unis n'est pas tout à fait pareil qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on a un conseil supérieur des programmes qui fait des programmes qui sont les mêmes partout. Les États-Unis, c'est un État fédéral. C'est un État fédéral, c'est-à-dire qu'à l'échelle de chaque État, il y a des choses qui peuvent changer fondamentalement. Il y a un département de l'éducation qui est fédéral. Il y a une agence fédérale qui octroie des fonds pour proposer des contenus d'enseignement et proposer des dispositifs d'enseignement, donc qui s'appelle la National Endowment for the Humanities. C'est pas que ça, hein, qu'elle finance, hein, c'est aussi des programmes de recherche, des programmes éducatifs de toute nature. Et ensuite, au niveau fédéral, la seule chose qui existe véritablement, c'est ce qu'on appelle des normes d'enseignement, des standards. Et ces standards de l'enseignement de l'histoire ont été repensés dans les années 1980. Et que ça a été piloté aussi en lien avec les évolutions justement de la science historique sur le passé. Et donc, on a proposé des nouveaux standards de l'enseignement. Mais en fait, ces standards, ensuite, sont adaptés à l'échelle de chaque État, en fonction de l'histoire spécifique de chaque État. Et à l'échelle aussi de chaque établissement, en fonction aussi des préoccupations des enseignants aussi. Mais la seule chose, c'est qu'ils doivent cocher en fait ces normes. À la fin du cursus, les élèves doivent avoir coché les cases de chacune de ces normes, d'une certaine manière. Mais c'est adaptable ensuite. Et donc ça veut dire que concrètement, les enseignants peuvent choisir où ils vont piocher les ressources éducatives qu'ils vont utiliser. Et donc il y a des manuels scolaires, mais il y a aussi tout un tas de productions, de ressources éducatives qui émanent de plein d'agences différentes, de ressources différentes, de musées, d'institutions culturelles, etc. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, déjà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes dans version originale. Je reçois Virginie Adan, qui publie aux Presses universitaires de France L'autre naissance des États-Unis. Vous, en page 176 de votre livre, Virginie Adan, vous évoquez l'historienne spécialiste de l'Asie du Sud qui exprime l'ambition de décoloniser l'historiographie. Sous cet aspect-là, aujourd'hui, où en est l'historiographie aux États-Unis ? Est-elle décolonisée ou en voie de décolonisation ?
Alors, l'historiographie aux États-Unis, elle est... Oui, je pense qu'il y a énormément de débats sur qui produit les travaux historiques, qui peut s'exprimer dessus, qui a des postes, etc. Et ces débats-là, donc est-ce qu'il y a une parité ? Est-ce qu'il y a de la diversité dans les producteurs de discours ? Et ce débat-là, il existe fondamentalement. Il y a encore beaucoup de choses qui sont très imparfaites, c'est certain. Mais je pense notamment, il y a eu une polémique il y a quelques années, c'était en 2020, lorsqu'il y avait eu un grand congrès d'histoire aux États-Unis, où quelqu'un s'était exprimé sur la politique du président Andrew Jackson, donc président du 19e siècle, qui avait une politique... génocidaire à l'égard des populations autochtones. Et la personne qui s'était exprimée était lui-même quelqu'un qui était blanc et qui avait eu des propos qui avaient été considérés comme assez discriminants à l'égard des populations autochtones. Et le débat qui avait surgi derrière ça, c'était est-ce qu'il ne faudrait pas laisser plutôt les descendants des populations autochtones produire l'histoire sur les populations autochtones et pas d'autres ? C'est un débat difficile quand même. Et ça pointait du doigt le fait que les populations autochtones étaient insuffisamment représentées dans les études historiques. Et en même temps, ça ouvrait la porte à est-ce que la seule légitimité pour s'exprimer est d'être descendant des populations concernées. Et ces débats existent véritablement. Et ça, c'est des débats qui posent la question de la décolonisation de la science historique, mais ça pose aussi la question de quand est-ce que la science s'arrête et quand est-ce que le militantisme commence. Et je pense qu'en fait, aux États-Unis actuellement, on est encore en plein dans ce débat. Pour pouvoir dire qu'on a une histoire qui s'est décolonisée ou pas, c'est qu'en fait, on est encore en plein dans ces fameuses guerres culturelles qui rendent difficile à lire les intentions des producteurs d'histoire, en fait, à ce stade-là. On est encore un peu dans ce moment un petit peu radical et ça pose encore beaucoup de questions pour l'instant. Et je pense que fondamentalement, le fait que les historiens aient massivement défendu le 1619 Project il y a quelques années vient montrer aussi cela. C'est la volonté à la fois de faire mieux, de ne pas être pris en défaut, mais en fait, la porosité pour l'instant encore très forte entre histoire et militantisme.
Est-ce que ce projet 1619, avec les débats qui s'en sont suivis, est-ce qu'il s'est inspiré d'autres pays ?
Alors, est-ce que ça a inspiré d'autres pays ? Alors, je pense que les autres pays n'ont pas forcément besoin du 1619 Project pour réfléchir sur leur propre passé colonial ou leur propre passé esclavagiste. Hein, on le voit notamment en France. Notamment, voilà, pensez à la loi Taubira ou à des choses comme cela. Mais en fait, je pense que chaque pays a sa propre chronologie. Je sais que, en tout cas, les États-Unis ont tenté, en fait, d'essayer d'exporter le 1619 Project en disant oui, on pourrait mettre 1619, par exemple, au Bénin. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre sur le site de Ouida ou des choses comme cela. Donc à Ouida, ils ont dit, si vous voulez mettre 1619, on peut le faire. Ça n'apporte pas grand-chose à la commémoration que nous cherchons à faire, qui dépasse en fait cette date qui est états-unienne. Donc voilà, je pense que les autres pays n'ont pas forcément besoin de ce que font les États-Unis pour avoir leur propre temps de commémoration.
Et est-ce que justement, y a-t-il une différence dans l'approche de l'enseignement d'histoire aux États-Unis par rapport à la France ?
Alors, une différence dans l'approche par rapport à l'enseignement
dans les grandes lignes, j'entends, bien sûr. Puisqu'on parle effectivement d'historiographie par rapport à cet événement 1619 repris en 2019. Est-ce que il y a une singularité américaine dans cette approche d'histoire?
Alors, la singularité, elle se logerait surtout sur peut-être un rapport beaucoup plus discursif à l'enseignement de l'histoire aux États-Unis par rapport à la France, où ça reste beaucoup plus magistral, on va dire.
ce qui est déjà une grande différence.
C'est déjà une très grande différence. Mais après, on peut observer quand même une tendance parallèle, en fait, à avoir fait à ce que ces thèmes aient fait irruption dans l'enseignement de l'histoire alors qu'ils en étaient foncièrement absents dans les décennies qui ont précédé. C'est-à-dire que même en France, hein, en fait, justement, avant les années 2000, l'enseignement de l'histoire de la traite esclavagiste et de ses effets sur le continent africain et sur les ports français, c'était quand même très marginal dans l'enseignement de l'histoire et c'est devenu beaucoup plus présent depuis les années 2000. Donc en fait, là, on voit une présence plus marquée de thèmes liés à la colonisation, et ça c'est l'œuvre des historiennes et des historiens, mais en même temps conjointement avec des associations citoyennes. Et je pense qu'au fait, aux États-Unis, on a un mouvement qui est un petit peu comparable, qui a pu se jouer. Oui,
je reviens un peu au début donc de votre livre, Virginia Dan. Quand vous évoquez donc cette arrivée donc des premiers captifs africains et africaines dans cette colonie de Virginie, la question s'est posée, est-ce que ces hommes et ces femmes ont le statut d'esclaves? Je vous pose cette question, c'est est-ce qu'aujourd'hui les historiens ont admis des critères disant voilà ce qu'était un esclave, même si effectivement ça ne fait pas débat, on sait ce que c'est qu'un esclave, mais est-ce que scientifiquement, avec une approche historienne, est-ce qu'on définit ce que c'est que l'esclave?
L'esclave, c'est la privation de liberté, la mise au travail forcé, la privation de liberté. Ces personnes étaient privées de liberté, mises au travail forcé. On peut les considérer comme des esclaves, fondamentalement. Donc je pense que ça, maintenant, c'est reconnu par les historiennes et les historiens. Pendant un temps, en fait, il y avait une ambiguïté qui a persisté pendant assez longtemps et qui a été assez levée assez massivement depuis, hein. L'ambiguïté qui avait subsisté, c'est que dans les archives, ils étaient désignés comme servants, c'est serviteurs. Et donc, en fait, on s'est dit, puisqu'ils sont désignés comme servants, ils sont l'équivalent des servants blancs. Sauf que dans les archives, ils ne sont pas juste désignés comme servants, ils sont désignés comme Negro servants, c'est-à-dire des serviteurs noirs, ou serviteurs, désolé pour le terme, des serviteurs nègres. Et donc, ils sont distingués des autres. Donc ça, c'est la première observation qui a été faite par les historiennes et les historiens, de dire ils sont distingués. La deuxième chose, donc il y a une différenciation. La deuxième chose, c'est que en cas de fuite, des serviteurs blancs et des serviteurs noirs, serviteurs blancs qui sont sous contrat, donc qui sont ce qu'on appelle des engagés, donc des conditions de vie absolument épouvantables, c'est une forme de servage, hein, donc servage, servitude, ce n'est pas très éloigné. Ces serviteurs blancs voient, ces engagés blancs voient leur servitude prolongée de quelques années. Quand les serviteurs noirs sont retrouvés, c'est indéfini en fait. On ne dit jamais c'est de plusieurs années. Ils ne sont jamais voués à être émancipés. Certains l'ont été. Certains l'ont été ponctuellement et ils sont très bien documentés. Mais en fait, ce qu'on a vu pendant un certain temps, c'est que ces quelques serviteurs noirs qui avaient été émancipés, qui avaient pu ensuite prospérer, même faire fortune, hein, en réalité, étaient peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt de ceux qui sont restés en esclavage en fait, pendant toute leur vie, quand ils ont été mis au service de planteurs virginiens. Et donc fondamentalement, maintenant, on s'est mis d'accord pour dire que ce qu'on appelait des Negro servants, c'était des esclaves, même si on n'utilisait pas forcément formellement le terme slave. Mais ce qui se joue en fait là-dedans, c'est qu'on est en 1619, ensuite on est dans les années 20, les années 1630-1640, et en fait c'est qu'à partir des années 1660 qu'on a une vraie codification de l'esclavage en Virginie. Mais cette codification n'est pas forcément le point de départ de l'esclavage racial en Virginie. C'est la formalisation de ce qui a été expérimenté pendant les décennies qui ont précédé, où en fait, on est confronté à une mise en esclavage qui est plus empirique, en fait. Donc, ce qui veut dire que cette mise en esclavage, pour certains planteurs, ça va vouloir dire, bon, bah, dans 5 ans, on va émanciper ces personnes parce qu'on n'en a plus besoin. Pour d'autres, c'est-à-dire, ça va vouloir dire on va les garder à notre service toute leur vie. Donc en fait, voilà, c'est très empirique, c'est une réalité qui est empirique, qui se construit petit à petit. Mais véritablement, ce qu'on observe, c'est une tendance plus massive à ce que ceux qui sont noirs restent en servitude et qu'ils sont distingués de ceux qui sont blancs et que leur traitement est distinct de celui des blancs. Donc en fait, véritablement, maintenant, les historiens considèrent que c'est de l'esclavage. Voilà.
Virginie Adam, pour finir, vous êtes donc historienne enseignante en France. Qu'est-ce qui vous a intéressé à travailler sur les États-Unis?
Alors,
je ne ferai pas allusion à l'homonymie, l'état de Virginie, votre prénom à vous.
Alors oui, d'autant plus qu'en fait, au départ, je travaille plutôt sur la colonisation de New York. Mais en fait, je m'intéresse à la colonisation de l'Amérique du Nord. Alors j'aurais du mal à répondre complètement à cette question. C'est un petit peu des aléas des études. J'étais intéressée par le terrain américain, je pense, dès le début de mes études. Et en fait, ce qui m'intéressait dans le terrain américain au XVIIe siècle, c'était le colonialisme. Et alors, je ne sais pas si c'est lié. Je pense qu'une partie de mon histoire familiale est liée au colonialisme. Alors, pas en Amérique du Nord, plutôt en Afrique du Nord, en réalité. Mais peut-être c'était une façon de déplacer un objet qui était peut-être justement trop sensible pour être traité avec la rigueur historienne et de le déplacer sur un autre terrain permettait de l'aborder d'une autre manière.
Merci beaucoup pour cet entretien, Virginie Adam. Je rappelle donc le titre de votre livre, L'autre naissance des États-Unis, cette presse universitaire de France. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. Je remercie Philippe Dunford qui était à la technique ce soir. Dans un instant, vous retrouvez Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, c'est Audiométrique. Passez une bonne soirée à l'écoute d'Aligre FM. Bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain.
Version originale. Patrick, Léon Émile. Yeah. Yeah.
Yeah. Slash. Drugs got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got to win the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sent us the corner hugger. Seeing this nigga shining, annoying me like a motherfucker. This buster owe me, now he act like he don't owe me. 44, my closest homie, kill cocker. Roaches like Tony got Montana motors. You bought 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we loking. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Chefing up the crack, the heroin, the weed, a la carte. I call it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary gon' see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What? The flesh, the Lambo powder outside, it's a stretch. My bitch half Mexican, Afghan, I'm blessed. From living tough times with rough levers, a gorgeous watch. A team on a dreadful level, yo. Yeah, we still getting money right. Long as the sun come out, I hold these money sight. Getting fresh, just cooling my bitch on my dick. But boo, yo, you live with your moms, just get a grip. Clip in my pocket, a rocket, I think of the dips. I need jewels and gems with rough flicks. Trips to Africa, shorty tear sacks up. I'm out in Bombay, rebels here acting up. We real OG 70.